Je pense que les sectes ont des propositions extrêmement alléchantes et qui ont un effet immédiat. C'est sans doute ça qui appâte un certain nombre de chrétiens aujourd'hui et qui leur fait oublier finalement leur propre enracinement dans la parole de Dieu, éclairé aussi par la tradition des apôtres et la tradition de l'Église.
Quand vous dites des propositions alléchantes, vous parlez concrètement de quel genre de propositions ?
Par exemple, toutes les guérisons aujourd'hui qui sont proposées à travers les dérives sectaires, les nouvelles thérapies, proposent effectivement des guérisons qui effacent totalement un symptôme gênant. Le problème, c'est d'essayer de comprendre un petit peu ce qui va au-delà. Et l'effacement d'un symptôme, d'une douleur physique, psychologique, existentielle, peut être enfoui plus profondément. Mais l'effet immédiat de telle ou telle thérapie, de telle ou telle proposition de prière, qui ont des effets relativement spectaculaires, sont extrêmement séduisantes pour essayer de guérir. Mais de quoi veut-on guérir ?
Alors, est-ce que cette recrudescence des sectes vient aussi du fait que nos pasteurs chrétiens, catholiques, ne sont pas assez formés à la communication, à fédérer ? Qu'est-ce que l'Église peut avoir à apprendre ?
Je crois précisément peut-être qu'elle doit effectivement faire très attention à cet aspect de gourou qui est de séduction. Les pasteurs ont à se préserver de cet aspect trop impliqué dans leur propre personnalité, et je crois que la meilleure annonce de l'Évangile, c'est précisément être dans une transparence, une humilité par rapport à cette parole. Et je crois que, d'une certaine manière, ces gourous font obstacle à la parole en se prenant, d'une manière ou d'une autre, pour Dieu eux-mêmes. Et effectivement, ça peut avoir une force, encore une fois, de séduction très grande, de croire que tel ou tel pasteur ou tel leader a des capacités de guérison, des capacités de parole de connaissance. Encore faut-il vraiment les examiner plus profondément et de voir les effets secondaires que cela peut avoir. La guérison immédiate et apparente peut enfouir un certain nombre de symptômes qui vont ensuite être plus graves dans la liberté même des personnes.
Quelles sont les sectes qui fonctionnent le mieux en France ?
Il y a quelques courants de type évangélique qui ont vraiment une grande audience parmi les jeunes, dans la région parisienne notamment, et puis surtout dans les milieux issus de l'immigration. Donc ça, c'est une problématique en France. Mais il y a aussi, peut-être d'une manière un peu plus insidieuse, toutes les nouvelles thérapies qui sont proposées aussi et qui se présentent comme autant de planches de salut par rapport à la souffrance, par rapport au mieux-être, et là aussi qui peuvent être assez sournoisement très imbibées d'une pensée de type New Age ou d'épanouissement personnel, mais qui n'a plus rien à voir avec la tradition de la révélation judéo-chrétienne.
Qu'est-ce que les gens viennent chercher dans les sectes ? Le salut, la guérison ?
C'est vraiment la question qui est posée à travers tout cela. C'est de dire qui cherche-t-on plutôt que cherche-t-on ? Qui cherche-t-on ? Et ça, vraiment, c'est la parole de Dieu qui traverse notre histoire, qui doit être notre finalité, comment nous sommes rejoints par cette parole de Dieu et pas se laisser séduire par toutes les miroiteries de ces nouvelles thérapies qui proposent une guérison ou un mieux-être qui peut être effectif dans l'immédiateté, mais qui finalement enferme dans une authentique relation et à Dieu et à l'autre et finalement aussi à soi-même.
Alors, selon vous, quelles sont les causes plus profondes qui motivent les gens à quitter l'Église pour une secte ?
On peut faire une analogie avec ce qui se passe aujourd'hui avec la crise financière. Le fait de vouloir être plus riche sans travailler, c'est sans doute ce qui nous a amené à ces difficultés d'ordre financier sur le plan mondial. Eh bien, on peut aussi imaginer que dans le domaine de la santé, on peut essayer d'acquérir un mieux-être immédiat, un mieux-être de développement personnel, mais sans réellement s'investir librement dans un choix de relation. Je crois qu'à travers toutes ces questions-là, il y a une évacuation de la dynamique de la croix. Et c'est pas un sujet très porteur de dire que la croix, la souffrance, fait partie intégrante de notre existence et que c'est en se tournant vers le Christ que l'on va refaire sens et qu'il nous rejoint dans chacune de nos difficultés, de nos précarités. Et que c'est vraiment la résurrection, mais qui est passage aussi par la croix, qui est l'objectif même de notre espérance. Je crois qu'à travers toutes ces dynamiques-là aujourd'hui, sur le plan mondial, il y a comme une forme d'étanchéité qui est proposée d'une manière très séduisante à nos fragilités, et nos fragilités sont le lieu même de la possibilité de l'irruption de la grâce dans nos vies.
Pendant le synode des évêques qui a eu lieu sur la parole de Dieu à Rome en octobre, en parlant des sectes, un évêque brésilien faisait remarquer qu'en apparence, les gens qui rentrent dans ces sectes affirment vivre plus pleinement les préceptes de l'Évangile.
Ils le vivent peut-être plus pleinement, encore faudrait-il voir cela dans le temps. Parce que, précisément, les séductions s'opèrent dans l'instantanéité. Or, il faut essayer d'examiner dans le temps, à l'épreuve aussi des difficultés que chacun de nous pouvons traverser dans notre vie, des épreuves existentielles de tous ordres, comment précisément ces grands discours très séducteurs peuvent résister. Je crois que là, il y a sans doute quelque chose qui est de l'ordre de discernement, de savoir qu'est-ce qu'il va advenir et qu'est-ce qui advient de personnes qui, dans le temps, qui répondent à l'enthousiasme de ces grands prédicateurs. Comment ensuite gèrent-ils leur quotidien dans la réalité parfois un peu difficile de la vie quotidienne? Et c'est surtout cet aspect-là, cet aspect d'incarnation qui est important. Et là, voilà, c'est au-delà des discours séducteurs, qu'est-ce qui advient dans le temps?